Bonjour et shalom chez vous. Nous sommes le mardi 2 juin 2026. Vous écoutez Méditons ensemble avec le révérend Jean-Claude Coffi. Aujourd'hui, nous étudierons la 27e partie du thème « Ce monde que nous devons haïr ». Nous aurons 6 textes de référence en ouverture de notre méditation. Nous commençons par le premier, Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Psaume 14, verset 1 à 3, il est écrit au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Romains 2, versets 14 et 15, il est écrit « Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Il montre que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. Psaume 36, verset 10, il est écrit « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Jean, chapitre 1, verset 1 à 4, nous lisons Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Enfin, Ésaïe 45, versets 5 à 1. Ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir ses portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance avant que tu me connusses. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre, hors de moi il n'y a point de Dieu. Je t'ai saint avant que tu me connusses. » Dans le but de renverser les allégations qui prônent la négation de Dieu, nous nous sommes engagés à déployer un argumentaire qui, prenant appui sur la parole de Dieu, vise à rétablir la vérité de l'évidence de l'existence de Dieu. Dans cette optique, un certain nombre d'arguments ont été examinés. Les arguments téléologiques, cosmologiques, ontologiques et anthropologiques. Outre ces arguments, il y en a 6 autres qu'il nous reste à considérer. Les arguments moraux, biologiques, historique, bibliologique, christologique et l'argument de la congruité. Le premier sur la liste des arguments restants est l'argument moral. Il stipule que l'existence en l'homme, créature de Dieu, de la conscience du bien et du mal, témoigne de la présence d'une loi divine inhérente à sa nature. Ce fait est indéniable, car où qu'on aille, dans tous les coins et recoins de la terre habitée, les humains font montre de l'existence en eux du bien, du sens du bien et du mal. N'avez-vous pas remarqué que quand quelqu'un se rend coupable d'un forfait, sa conscience le juge et qu'il s'ensuit que ce dernier portera d'une façon ou d'une autre le poids de la culpabilité? On se souvient de l'histoire de la femme prise en flagrant délit d'adultère qui, exposée à la vindicte publique par un groupe de scribes et de pharisiens prêts à la lapider, dut son salut à l'intervention in extremis du Seigneur Jésus. De fait, dans le but de le mettre en porte-à-faux dans une posture embarrassante avec la loi de Moïse, au pire et au mieux pour avoir sa caution morale, les scribes et les pharisiens sollicitèrent son avis. Nous lisons dans Jean 8, versets 2 à 6, il est écrit « Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ?» Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jean 8, 2 à 6. Savez-vous comment cette femme avait pu finalement échapper à sa lapidation actée et planifiée? Le Seigneur Jésus, comme à son habitude, adressa aux accusateurs de la femme une question des plus pertinentes, une question ô combien incisive, dans Jean 8, verset 16, verset 7. Jean 8, verset 7, nous lisons. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Jean 8, verset 7. Le Seigneur les confronta au tribunal de leur propre conscience sans ajouter un mot de plus. Mais la Bible dit, dans Jean 8, verset 9, que quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Jean 8, verset 9. Chaque être humain héberge en son fort intérieur une loi divine, mieux un arbitre qui l'interpelle quand il agit mal, d'où la culpabilité, les problèmes de conscience, la tendance à juger les autres. Ces choses constituent à elles seules le témoignage que l'homme est un être moral, et à ce titre, il a un juge divin à qui il a à rendre compte. Il est vrai que la conscience du bien et du mal chez l'homme peut être grandement faussée, mais force est de reconnaître que sa présence est une évidence de l'existence d'un législateur divin. Le second argument parmi ceux qui n'ont pas encore été étudiés est l'argument biologique. Le mot biologique nous parle de ce qui a rapport à la vie, aux organismes vivants. Le mot grec « bios » signifie « vie ». Un théologien de renom, le professeur Conner, a écrit, je cite, « C'est un fait scientifique que la vie ne peut venir que d'une vie préexistante, pas de la matière seulement. Donc, pour retracer la vie à sa source, nous devons éventuellement revenir à Dieu lui-même. Il doit y avoir un être qui est l'ultime source de vie, l'origine de toute vie et le possesseur de la vie éternelle lui-même. La source de vie est Dieu. » Fin de citation. La biosphère est un puissant témoignage en faveur de l'évidence de l'existence de Dieu. En principe, tout ce qui respire, tout ce qui vit, doit louer Dieu plutôt que de questionner son existence. L'existence de la vie ou de la biosphère est une prémisse suffisante pour qu'il y ait un Dieu, source de vie, de qui émane toute vie. Car ce qui ne vit pas ne peut pas produire ou générer la vie. L'existence de la vie est un argument inattaquable de l'évidence de l'existence de Dieu. Aussi, n'est-il pas indiqué que nous terminions notre méditation avec ce beau psaume, le psaume 150 ? Vous vous rendrez compte que les dernières paroles de tout le livre des psaumes, le plus long livre de la Bible, célèbrent le Dieu source de vie. Psaume 150, versets 1 à 6. Louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur, louez-le au son de la trompette, louez-le avec le luth et la harpe, louez-le avec le tambourin et avec des danses, louez-le avec les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le avec des cymbales sonores, louez-le avec les cymbales retentissantes, que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Demain, nous nous pencherons sur les arguments bibliologiques et historiques. À retenir, contre les allégations qui prônent la négation de Dieu, nous pouvons recourir à un argumentaire pertinent et éprouvé basé sur la parole de Dieu. Les arguments en faveur de l'évidence de l'existence de Dieu sont multiples. Les arguments cosmologiques, ontologiques, anthropologiques, moraux, biologiques. L'argument moral stipule que la présence chez l'homme du sens du bien et du mal montre à tout le moins qu'en chacun est inscrite une loi divine, témoin de l'existence d'un législateur divin. L'argument biologique, c'est le plus pertinent de tous. Il souligne que l'existence de la vie induit incontestablement la préexistence d'une vie. Or, l'ultime source de la vie, c'est Dieu qui possède en lui la vie éternelle, la vie qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura pas de fin, la vie de laquelle émane toute autre vie. Tout ce qui vit doit louer le Seigneur plutôt que de mettre en doute son existence. Que le Saint-Esprit nous aide à recourir aux arguments théologiques afin d'aider ceux qui sont victimes des allégations farfelues et fantaisistes qui leur font croire que Dieu n'existe pas. Portons le message de l'existence de Dieu et de son Christ jusqu'aux extrémités de la terre. Puisse le Seigneur nous faire grâce d'accomplir en la matière des exploits préparés d'avance pour que nous les accomplissions avec Dieu, selon le psaume 60, verset 14. Je prie que le Saint-Esprit nous accorde de vivre de puissants élargissements spirituels dans tous les domaines de notre vie en ce mois de juin, en vous souhaitant une excellente et victorieuse entame de semaine en Christ. Signé, votre serviteur, le docteur Jean-Claude Coffi, ce mardi 2 juin 2026.